La mélodie des seniors. Ce programme vous est proposé en partenariat avec l'EHPAD des Châtaigniers.
Tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
C'est vrai,
bonjour.
À qui avons-nous l'honneur? Avec qui nous sommes aujourd'hui?
Alors, je dois parler de moi, ça me gêne un peu.
Oh.
Mais bon, oui.
Vous pouvez donner un surnom si vous ne voulez pas dire votre nom.
Non, je ne vais pas dire mon nom, mais je veux dire, j'aime pas trop. J'ai pas été habituée dans l'éducation que j'ai reçue.
D'accord.
J'ai 93 ans, donc c'était.
D'accord.
C'était okay. Une éducation de l'ancienne, comme
oui.
Disait le voisin de ma mère. Et donc.
C'est plus compliqué de parler de soi. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de quelque chose.
C'est difficile. Dans mon éducation, justement,
oui.
J'allais dire, on ne parlait pas de soi.
Mmh.
On ne parlait pas d'argent.
D'accord.
Ça, c'était un sujet tabou. On ne parlait pas de soi. On ne racontait pas ce qui se passait à la maison. Un papa qui faisait un peu de la politique à l'époque, je me souviens, j'étais très petite parce qu'il est mort en 1941, mon papa.
D'accord.
Et j'avais 9 ans. Donc, quand même, j'entendais. Je me cachais toujours sous la table pour entendre les adultes qui, le soir, discutaient à la veillée.
Oui.
Et moi, j'adorais être dans mon petit coin. Alors, évidemment, je traduisais à ma façon et j'entendais des mots. Et je pense. Alors. Le terme vient de partir. Le parti politique des ouvriers un peu évolué.
Ah, la force ouvrière maintenant, un peu la partie communiste.
C'était pas les communistes, c'était juste avant, juste au-dessous.
Je pourrais pas dire.
Non, écoute, je n'arrive pas à me souvenir, peu importe. Donc voilà. Je comprenais pas, mais j'entendais les mots, mais il fallait surtout pas les répéter.
On ne disait rien.
Voilà, la discrétion. Ça faisait partie de mon éducation.
D'accord. Je comprends tout à fait. Et justement, là, on a parlé un tout petit peu avant. Et donc, vous nous avez dit qu'en fait, une des musiques que vous appréciez beaucoup, c'est donc la musique classique. Et
oui.
Tout particulièrement
oui.
Mozart.
Oui. Oui, parce que j'ai commencé par ça. Mais alors, après, ça m'a permis d'ouvrir vers des modernes, vers des musiques que je. Oh, comment on a. J'ai oublié le
non,
mot. C'est un mot, une musique qui est un peu bizarre, quoi. Un peu.
En
un peu. Je me souviens plus. Oh, ma mémoire me fait défaut, je suis désolée.
Mais non, mais c'est pas désolée.
Pour l'instant, mais si, parce que j'ai tout ça quelque part. Et mes petits tiroirs, j'arrive pas toujours à trouver lequel je dois ouvrir. Alors,
ça va venir en parlant.
J'espère.
Trop. Là, comme je dis. Là, on est.
C'est vraiment tout. J'ai une nature un peu émotive et il faut que je. Et je suis patiente, quoi, voilà, enfin, pas très patiente.
Oui,
donc.
Je comprends. Mais là, déjà, c'est très bien, justement, donc savoir que je pense que c'est quelque chose qui a. Donc ma mère, qui est plus jeune que vous, mais a connu ça aussi dans le fait où il y avait des choses qui se faisaient en secret,
où
on écoutait un peu les adultes parler,
oui.
On était cachés sous la table,
oui.
Et ça, bah, c'est très intéressant, c'est vraiment un marqueur d'un vécu à l'ancienne. Ça continue même maintenant, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'enfants actuels qui... Ils disent quoi les parents? Et donc ils se cachent un peu. Ah, on a.
Je
confirme. Voilà. Et justement, donc vous nous avez dit que vous avez 80 ans, donc déjà bravo. Et c'est un bel âge. Alors, encore beaucoup, on est d'accord.
Non, moi je dis toujours merci maman parce que c'est quand même ma mère qui m'a mise au monde. Et si
oui.
Je suis comme ça, et je sais que ma maman était restée jeune jusqu'au dernier moment. Je veux dire jeune dans le sens où c'est une personne qui bougeait beaucoup, qui était mince, élégante et qui me disait toujours « Oh moi ma petite fille, je ne suis pas très instruite parce que j'étais l'aînée des six enfants et j'ai dû quitter l'école à 12 ans et demi. » Mais je lui disais « Mais maman, tu as dû apprendre après parce que quand tu m'écris, tu ne fais pas de faute. Comment ça se fait ?» Enfin, je constatais quand même. Alors ça, je ne m'explique pas. Comment ma mère, qui me disait toujours, j'ai quitté l'école à 12 ans et demi, certes elle était chez les religieuses, donc ça bardait,
ouais, hein, c'était
strict. Mais j'ai jamais. Alors pourquoi j'ai pas posé les questions à ce moment-là? C'est comme mon grand-père, alors le père de ma maman, qui lui-même me disait, quand il me parlait, c'est toujours, oh mon petit, la vie est comme ci, comme ça. Il, c'était un philosophe.
D'accord.
Et quand il me disait, quand je suis allée au séminaire et qu'ils se sont aperçus que je n'avais pas la religion, que je n'allais pas demandé de devenir prêtre, ils m'ont fichu à la porte. Mais je n'ai jamais demandé à mon grand-père, mais qu'est-ce que tu as fait après? Comment tu as fait? Il avait une écriture très... Enfin, il avait continué des études, mais où? Je ne sais pas. Et ça, je regrette. Ah. Mais à l'époque, les enfants ne posaient pas de questions.
Pas de questions, c'est
non.
ça.
Non.
Bon, c'est pour ça que là, nous, on fait les curieux, parce que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est des petites choses que... Bah, des fois qui s'oublie, qui se perd, et nous c'est quelque chose qu'on veut
et là,
garder.
Je suis née en 1932, là je suis dans les années 30 oui. à 41 jusqu'à la mort de mon père. Après la vie a changé. J'ai pas fait les études que je voulais faire parce que ma maman a fait des ménages, elle a gardé une de ses amies qui était toujours malade, et en fait, heureusement qu'elle avait cette amie qui la faisait travailler et qui en fait, nous permettait de manger. Et c'était une vie difficile, quoi, pour elle. Ouais. Pour moi, beaucoup moins, parce que je ne manquais de rien, finalement.
Non. D'accord.
Bon,
justement là, donc par rapport à votre vécu, donc là vous nous dites que vous avez 93 ans, donc vous avez vécu donc la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Comment vous l'avez traversé? Vous étiez en France, si oui ou
alors, et comment nous, on le vécu? Nous habitions Montmorillon et mon grand frère a été tué au maquis le 5 septembre 1944.
Ah oui.
Et alors c'est une histoire, je crois qu'il a été assassiné, mais ça j'avais 12 ans et c'est maintenant, je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à penser à Roger, mon frère, et je me dis, il y a des indices qui me... Je sais pas, j'ai des indices...
Pour vous c'est pas lié à la guerre, c'est plus autre chose.
C'est plus des vengeances... Les maquisards, vous savez ce qui s'est passé pendant le maquis, il y a eu énormément de morts, c'était très, je ne sais pas comment dire. En plus, on avait un ami, Abel Pinault, qui était directeur d'école et qui, lui, avait fondé son maquis. Enfin, c'est après que j'ai su des choses.
D'accord.
Alors donc, mon frère était un peu lié à ces gens-là du fait qu'il connaissait. Il était pâtissier. Enfin, il devait reprendre la pâtisserie de ses patrons à Montmorillon toujours.
D'accord.
Parce qu'il était excellent pâtissier, ça lui plaisait énormément. Mmh. Et ces gens-là étaient ce qu'on appelle croix de feu royalistes.
C'est-à-dire ?
Les royalistes, on disait les croix de feu, des gens qui voulaient mettre le pays à feu et à sang pour établir un roi de France.
D'accord.
Et ça, c'était dans les années 30 et quelques.
C'est
original. Et donc mon frère était vraiment très mal placé. Il était en porte-à-faux.
Oui,
il travaillait d'un côté et on savait que de l'autre, il
était pour.
Voilà, alors c'est bizarre. Et là, je cherche dans ma petite tête, je me dis, mais où est la faille? Et ils ont tué Roger, ils ont tué mon grand frère, que j'adorais.
Et là, oui, effectivement, là, donc c'est toutes des petites questions, des choses qui se remettent.
Oui, mais personne n'est plus là pour me donner le moindre indice.
Et puis même les archives ou autres, potentiellement.
On ne trouverait rien là-dedans.
Bah oui, c'est compliqué.
Parce qu'il était dans le groupe, alors je ne sais même plus le nom du chef de groupe, des maquisards, je ne sais plus rien. J'ai essayé après, mais personne ne connaît plus rien.
Avoir les infos, c'est
voilà,
c'est compliqué.
Les gens sont morts ou ailleurs. Ils n'ont plus de mémoire, comme moi. J'ai des grandes, grandes plages de mémoire qui sont disparues.
Ouais.
Et tout d'un coup, des choses reviennent, des petites choses. Oh là là, et ça, c'est souvent le soir. Avant de m'endormir, alors là, ça me tient éveillé parce que je me dis, oh, ça y est, je tiens le fil. Eh ben non. Après, c'est terrible, ça. C'est terrible. Et quelquefois, alors ça me rend heureuse. Tout d'un coup, je dis, oh, ça y est, j'ai trouvé. Mais il y avait les intels, il y avait les... Mais, eh ben non.
Ah. Il faudrait prendre quelque chose pour noter. Une note pour nous à la place. Comme ça qu'on a ces grands moments d'esprit là. Oh, ok, ça note.
Vous avez un script à côté de vous.
Voilà.
Alors, moi, j'avais une question. Vous avez exercé quoi comme métier?
Alors, j'aurais aimé être institutrice, mais étant donné les finances de la famille, j'ai dû travailler très vite. Enfin, très vite. Donc, avec un malheureux brevet élémentaire, ça équivalait à la première partie de bac à l'époque, en 1948. Donc, comme on n'avait vraiment plus un sou, je suis allée empaqueter de la lessive. Il y avait une petite usine de lessive qui s'est créée à Montmorillon.
D'accord.
Donc, je suis allée empaqueter de la lessive. Alors, je crois que ça a duré à peu près un an. Mais en même temps, j'avais préparé un concours de la Poste. Parce qu'à l'époque, il y a les contributions indirectes, un bureau qui s'est créé à Montmorillon pour percevoir les taxes sur le chiffre d'affaires qui venait d'être... ça avait été remanié, tout ça. Donc, on employait des jeunes. Et alors, j'ai été auxiliaire à la tâche, c'est-à-dire 5 heures, peut-être à peu près 5 heures par semaine.
D'accord.
Ah, oui.
Et ensuite, peu à peu, étant donné que j'étais vraiment très sérieuse et que pour moi, l'heure, c'était l'heure. Parce que jamais, mais alors ça ma mère a toujours dit d'une exigence rare pour l'heure, c'était telle heure, ça n'était pas 5 minutes près, c'était l'heure, voilà. Donc je crois que ça a joué en ma faveur. Et ensuite, tout de suite, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à la recette des impôts, des contributions de l'époque, les gens payaient leur chiffre d'affaires en numéraire.
Oui.
Et alors moi je brassais des paquets d'argent, je ne faisais que ça, faire des liasses. Ouais. Et le soir, mon patron me disait, eh bien petite, avant la fermeture de la Poste, vous irez verser. Alors, avec mon petit sac à main, mon petit sac à dos, l'air de rien, je prenais la rue de la Poste et j'allais verser. Et quand on me voyait, alors évidemment, la dame du guichet, je lui filais le petit papier où il y avait le total. Alors, soit elle me faisait, vous allez chez le receveur, parce que c'était une grosse somme.
D'accord.
Alors, sinon, c'est elle qui les prenait. Alors voilà, j'avais une petite porte détournée et j'allais chez le receveur.
Mais c'est complètement dingue. En fait, cette histoire, moi, je trouve ça fou. Dans le fait, potentiellement, ça peut être très dangereux pour vous.
Oui, mais jamais j'ai pensé que ça pouvait être dangereux. Et qui pouvait penser qu'une petite bonne femme d'un mètre 59 et demi, pardon. J'y tenais beaucoup. Donc, vous pouvez transporter des sommes pareilles. C'est pas incroyable.
Ouais, je comprends tout à fait, oui. Parce que...
Oui. Et donc, que pourrais-je dire de plus? C'est bien sûr, ce métier, c'était pas le rêve, mais d'un autre côté, ces gens-là, monsieur et madame Darfeuil, ce monsieur qui tenait la recette, était très, très, très gentil. Il était sévère mais juste. Et là je pense que j'ai appris mon métier, j'ai appris la rigueur, une certaine rigueur.
Et vous avez toujours fait donc justement vous avez continué ce métier ou après ça vous a permis d'évoluer sur autre chose?
Non, j'ai passé tous les concours que j'ai pu, c'est-à-dire des petits concours, je me rappelle plus trop, mais les maths, pour moi, ça a toujours été assez difficile. Je n'aimais pas les maths. Mais ça ne m'empêchait pas de faire... Alors, ce que je ne m'explique pas, c'est que pour rentrer là, on était 4 ou 5 jeunes filles. Il me semble me rappeler. Par contre, je ne sais plus qui elles étaient, sinon je saurais ce qu'elles sont devenues. Et on nous a donné un registre qui s'appelait le 44, alors avec des noms et puis des montants. Et les montants, il y avait des additions à faire, mais comme ça. Et je ne peux pas vous dire, mais c'était...
Oui, c'est un chemin d'addition, je crois que c'est une autre chose.
Incroyable. Et alors, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai été prise parce que c'était juste. Mais je ne sais pas comment ça pouvait être juste, mais... C'est incroyable, incroyable.
Tant mieux,
hein. C'est super pour vous.
Voilà. Et ça, je me rappelle, et je me dis, mais là, j'ai eu de la chance quand même. Et je ne sais pas ce que sont devenus les autres. Et je me dis, mais c'est de l'égoïsme. Tu aurais pu quand même savoir quels étaient... Je ne sais pas leur nom, je ne me rappelle plus leur nom.
C'est chacun de mieux.
Mais oui, la lutte pour la vie. Voilà.
Moi, j'avais une question par rapport à votre enfance. Quel est votre plus beau souvenir d'enfance?
Mon plus beau souvenir d'enfance, ça a été un Noël où mon frère étant pâtissier, justement, quand je me suis réveillée dans ma chambre, il y avait une petite cheminée en marbre noir, noir ou gris foncé, et tout le long de la cheminée, j'avais un Père Noël en chocolat, j'avais un œuf en chocolat, enfin des objets en chocolat, tout le long, et ça a été... Quand j'ai vu tout ça. Et je me dis, et j'ai dû le manger certainement, tout ça. J'étais gourmande, mais comme c'est pas croyable.
Ouais, moi aussi je suis gourmand, je vous rassure.
On aurait tous fait pareil.
Voilà, alors ça c'est. Oh là là, le Père Noël était passé.
Ah bah ça doit effectivement, ça doit être un très très beau moment.
Ça doit être ça, regarde.
Voilà.
Tu veux pas me dire,
oui. C'est à moi. Tu sens bien parti.
Je suis honoré. Donc, du coup. Quel grand événement a marqué votre vie et comment l'avez-vous vécu du coup?
Un grand événement. Alors c'est surtout la tristesse à la mort de mon père, dont j'avais 9 ans. Il est mort des suites de la guerre de 14-18 parce qu'il avait été gazé, il avait eu beaucoup de problèmes. Il a vécu environ, d'après mes calculs, il a vécu quand même 40 ans parce que ma maman était une vraie infirmière. Moi je me souviens de ma petite enfance où quand la porte de ma chambre, la porte de ma chambre était ouverte et je me souviens des odeurs que ma maman passait sur le palier et tous les soirs elle lui préparait, alors c'était la guerre, 39-40, 41, et elle lui préparait donc une tasse de lait très chaud, bien sucré, avec quelques gouttes de teinture d'iode dedans. Il n'y avait pas de médicaments. Et donc elle passait avec cette tasse qu'elle allait faire boire à mon papa. Elle passait sur le palier de ma chambre et ça sentait après la teinture d'iode. Et ça me rappelle toujours cette odeur de teinture d'iode toute ma vie quand je l'ai sentie à l'hôpital ou quand j'ai été opérée ou voilà. Et ça m'a rappelé ces nuits où je savais que ma maman ne dormirait pas, que voilà, il se passait, c'était dramatique quoi.
Ouais, c'est...
Parce que on ne me disait rien, mais la petite fille que j'étais avec toute cette imagination. Je me bâtissais.
Voilà, maintenant c'est l'odeur aussi voilà, qui est imprégnée de ce moment, de ce souvenir.
Oui.
Donc c'est vrai que ça doit être. Des fois on pense beaucoup on dit qu'on imagine des choses, on se souvient des choses, mais les odeurs aussi sont des souvenirs, les musiques sont des souvenirs.
Oui, c'est vrai.
Tout peut devenir un souvenir en fait.
Mais c'est ça en fait.
Les cinq sens.
Voilà, les cinq sens dès que ça va nous marquer. Oui. Justement, au vu de la vie que vous avez, vraiment la belle vie que vous vivez actuellement.
Oui.
Qu'est-ce qui fait pour vous que qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir pour vous une vie épanouie?
Eh bien, d'abord avec mon mari, on a eu des années merveilleuses et il avait 10 ans de moins que moi. Alors, je me souviens tout le temps que ma maman me disait mais il y a tel garçon là dans le quartier, il est gentil et tout. Et puis je disais mais écoute maman. Quel intérêt de s'appeler Madame Intel ou Madame Machin? Non, mais alors parce que je pense qu'elle, étant donné que elle aurait voulu que je sans doute partir tranquille et que je sois moi mariée, etc. Je sais pas trop. Enfin, j'ai l'impression que ça lui tenait à cœur. Et en fait, elle aura pas su parce que elle a rencontré Michel une fois, mais comme il avait 10 ans de moins que moi, alors elle me disait tout le temps, ma petite fille, celui qui t'est destiné, il n'est pas né, ça c'est certain. Et alors j'ai tout le temps en rêve, ma petite maman, comme tu avais raison. Et donc il avait 10 ans de moins que moi, et c'est vrai que quand j'ai rencontré Michel, il était contrôleur laitier, moi j'étais contrôleur des impôts. C'était un ami de cousin de la campagne, de nos cousins de la campagne, et je trouvais beau garçon, gentil, très sympathique, très souriant, mais c'est tout. Et peu à peu, je me souviens du fait, c'est quand, quelques temps après la mort de ma maman, on sonne dans mon appartement, mon rayon, et j'ouvre la porte, et Michel était là. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, je viens d'apprendre la mort de ta maman. Je l'ai attrapé par son veston. Je l'ai fait rentrer, j'ai fermé la porte, et là, on s'est embrassé dans l'entrée de mon appartement, mais je ne sais pas combien ça a duré. Et je ne suis pas sûre de l'avoir laissé repartir le soir. Je dis, il ne faut pas que je me monte la tête, attends, et j'ai personne maintenant, mais je pense que je ne l'ai pas laissé repartir.
Et
ça a été une histoire d'amour
folle,
on peut le dire, et qui a duré très longtemps. Des décennies.
Et justement, là, donc vous dites qu'il était 10 ans plus jeune que vous. Déjà qu'actuellement, c'est mal vu, mais c'est très critiqué. Malheureusement, les femmes sont très critiquées qui sont avec des jeunes.
Oui.
Et justement, à votre époque, vous le viviez comment?
Alors,
comment c'était perçu?
J'ai l'impression que la plupart des gens ne savaient pas. Ça ne se voyait pas du tout.
D'accord.
Parce que quand je l'ai dit après, c'est pas que je me suis vantée, mais j'ai dit qu'il faut quand même dire qu'une femme a le droit d'épouser un homme plus jeune.
Oui.
C'est vrai.
Moi, pour être dans le mouvement des femmes, en gros. Et c'est vrai que là, je m'en suis jamais cachée, et tout le monde me disait « Oh non, c'est pas possible, alors là, tu rigoles, non. Là, vous étiez du même âge, c'est pas... Mm-hmm. » Alors voilà.
Ça peut être aussi le contraire, un homme qui est marié avec une femme plus jeune,
Maintenant aussi, ouais,
c'est plus courant. C'est vrai que c'est ça. Enfin, maintenant, c'est pas très accepté qu'une femme soit avec un jeune. C'était encore plus vrai à l'époque. Donc, c'est vrai que d'entendre ça.
C'était dans les années 70. C'était pas au Moyen-Âge.
Ah, mais non, non, mais non, mais même.
Alors voilà. Les mentalités ont évolué depuis.
Oui.
Je fais la dernière. Ok, excusez-nous, un petit problème de technique. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes générations?
Un conseil, oh là, est-ce que je peux me permettre de donner un conseil?
Oui, allez-y.
J'ai ma nièce, ma petite nièce préférée, Christine, qui a maintenant 50 ans. Et je suis très, 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 très proche. Nous sommes très proches, toutes les deux. Ouais. Mais je ne lui donnerai pas de conseils parce que je trouve que les jeunes sont ouverts à tout et j'aime...
Aimez discuter avec les jeunes?
Ah oui. Je trouve que... Ah oui. J'ai une autre nièce. C'est vrai que je ne les vois pas assez souvent. Ils habitent Nantes. Mais j'aime parler avec eux. Le summum, c'est que Christine a un fils, Antonin, qui a 15 ans. Alors là... Mm-hmm. Mon rêve. Mais ce Antonin, il me surprendra tout le temps. Alors, il vient passer des journées avec moi. Il est venu plusieurs fois passer une journée avec moi. Et je ne sais pas quoi dire, parce qu'il a des conversations. Il arrive à ne pas parler de lui, pas parler de moi, de parler de la vie, de parler de choses intéressantes.
Ah.
15 ans, il est génial.
Ça, c'est vraiment
je ne sais pas ce qu'il va devenir, mais je trouve que...
On lui souhaite le meilleur.
Allez, on lui souhaite le meilleur, s'il nous
écoute. Oh là, c'est incroyable. Moi, je crois que je n'ai plus rien à vous dire de ma famille.
Bon, vous nous avez dit beaucoup sur vous, et merci beaucoup. Alors, on vous souhaite une bonne journée.
Oui.
Au revoir.
Le jour où je me suis trouvée seule et où j'avais visité cette maison, et je savais que c'est là que je viendrais. Quand je serai seule, et effectivement, c'était 2 ans après la mort de Michel, ma voisine s'occupait de moi dans la journée, mais le soir, je ne pouvais pas dormir. La nuit, je ne pouvais pas dormir, j'avais peur. Et j'avais visité donc cette maison, et dès qu'il y a eu une place, j'ai pu venir. Et alors, depuis que je suis là, c'est merveilleux. Je me suis inscrite à toutes les activités. Je ne m'ennuie pas du tout.
Ah bah c'est parfait, c'est bien savoir.
J'ai toujours un intérêt quelque part. C'est vrai, je suis inscrite à beaucoup.
C'est vrai.
Oui, je crois. Non, j'ai toujours peur de dire une chose parce que j'avais tendance à tellement je suis enthousiaste. Je voudrais pas m'éloigner de la vérité. Ça pourrait m'arriver. Voilà.
Ça fait combien de temps que vous êtes
ici? Là, je suis arrivée. À la mi-mai, à peu près le 13 ou le 15 mai 2022. Non.
Si, 2022.
23, 24, 25. Ah oui, c'est vrai.
Ça.
Cette année.
Ça va faire là.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai bien dit. Voilà.
Parfait.
Alors, c'est bien. Et c'est jusqu'à la fin de mes jours, ça c'est sûr. Ah. Voilà.
On viendra vous voir.
Oui, c'est gentil, je suis très contente. Très contente, voilà.
Merci. Bon, ça va être tout pour nous. Merci beaucoup.
Oui, merci.
Au revoir.
Très bien, merci.
Au revoir. Très bonne journée à vous, madame.
Bonne journée.
Au revoir.
C'était la Mélodie des Seniors, une émission proposée par REC en partenariat avec les Pattes des Châtaigniers.